Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Frère Philippe, bonjour.
En voyant l'article 425 du catéchisme sur lequel nous allons nous arrêter, qui s'appelle « Annoncer l'insondable richesse du Christ », je pensais à une association de verbes. Tu vas comprendre quoi. Quand on a, à la fin de l'évangile selon Saint-Luc, le récit des disciples d'Emmaüs, il est dit à un moment, donc les disciples ont cheminé avec Jésus sans savoir que c'était lui, et progressivement, quelque chose s'est produit en eux, ils vont faire rendre compte de cela à la fin. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant, tandis qu'il marchait avec nous sur le chemin? Et ce cœur brûlant, c'est quelque chose que l'on peut ressentir dans la vie de foi, dans la prière, pas dans les sacrements, ça fait partie de ces expériences. Nous disions d'ailleurs qu'il faut toujours faire attention à ne pas surestimer l'expérience, en tout cas à ne pas l'absolutiser. Donc, mais l'expérience, c'est se sentir le cœur brûlant. Nous avons ce chaud au cœur parce que nous sentons que nous vivons quelque chose dans la foi avec le Christ, c'est très bien. Cela nous donne des ailes aussi, et cela nous porte à agir conformément à cette joie que nous avons pu avoir. Mais ici, dans cet article 425, il y a cette formule. Dès le commencement, les premiers disciples ont brûlé du désir d'annoncer le Christ. Alors tu vois, c'est le verbe brûler qui m'a attiré, parce que parfois... Il est une évidence que la foi, certains cherchent qu'est-ce que la foi va me faire du bien. Espérons que la foi fait du bien, mais ce n'est pas forcément pour ça d'ailleurs qu'on la cherche. Mais la foi fait du bien, très bien. Elle nous met en acte et nous oriente vers les bons comportements, très bien aussi. Simplement, il faut aussi pouvoir l'annoncer. Et c'est quelque chose que les chrétiens, des fois, sont plus partagés là-dessus. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup se développer dans l'Église, enfin le vocabulaire de la mission dans une réalité très, très, très proche de chacun. L'évangélisation prend de plus en plus d'importance, et c'est très bien. Moi-même, j'ai participé à des formes d'évangélisation qu'on appelle directe, dans la rue. Mais pour d'autres, ça reste quelque chose d'assez difficile à concevoir, l'impression que l'on va heurter des gens à qui les gens ont droit à l'anonymat. J'ai déjà entendu cela. Les gens ont droit à ce qu'on respecte leur propre expérience spirituelle, leur propre foi ou leur non-foi, et donc on n'a pas forcément à aller dire quoi que ce soit. Or, ici, cette expression « les premiers disciples ont brûlé du désir d'annoncer le Christ » doit quand même nous marquer, nous frapper. On ne peut pas passer à côté de cette expression.
Oui, et tu as tout à fait eu raison de le mettre en symphonie avec le passage de Saint-Luc au chapitre 24. « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ?» Il y avait quelque chose en même temps de la raison qui était là et qui était le contact avec Jésus, mais Jésus aussi qui se révèle dans les Écritures. Et à cette heure même, il retourne à Jérusalem, et que disent-ils aux 11 apôtres réunis et leurs compagnons? C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. Et il raconte que ce qui leur est arrivé sur la route. Et c'est très beau, cette conjonction sur la vérité de la foi. La foi, c'est une adhésion à la vérité tout entière. Et il y a dans la révélation cette plénitude qui est donnée. Et la vérité, eh bien, ça se communique par non seulement le témoignage de la vie, mais aussi par les vérités de salut qui sont annoncées par cette parole de Dieu. Il y a convergence entre les actes et les paroles. Et quelqu'un qui est vraiment dans ce feu du désir d'annoncer Jésus, non seulement en témoigne par sa vie, une vie dans laquelle, nous l'évoquions, il y a le devoir d'État, chacun a un devoir d'État. S'il l'applique bien, c'est le témoignage des œuvres. Mais il y a aussi un plus, c'est le témoignage de la vérité. Souvenons-nous, devant Pilate, eh bien, Jésus n'a pas craint de dire qu'il n'était venu que pour rendre témoignage à la vérité. Et il est important, nous-mêmes, parfois dans des situations qui ne sont pas seulement de tolérance, mais de conflit, quand la société bouge dans un sens qui n'est pas conforme ni à la loi naturelle ni à la loi évangélique, c'est normal que nous ayons une parole prophétique, une parole qui soit en contradiction. Saint Paul nous le dit bien qu'il faut témoigner à temps et à contre-temps. À temps, je dirais, c'est quand tout va bien et à la limite lorsque le témoignage des œuvres suffit, mais parfois à contre-temps, c'est-à-dire dans un rapport de force quand la situation se dégrade et qu'il n'y a plus que les mots gonflés de tolérance. Ça veut dire, ça ne veut pas dire que le chrétien n'est pas tolérant, mais il est tolérant, je dirais, en vue de la mission. Il ne faut pas non plus que le dialogue, je dirais, exténue la mission, car le dialogue, c'est très bien, mais comme le faisait remarquer un de nos grands théologiens, Charles Journet, le premier dialogue de l'histoire de l'humanité, c'est entre Ève et le serpent. Donc le dialogue pourrait être très limité, si vous voulez. Il faut aller plus loin. Et notre conviction, c'est que Jésus nous attend pour le pas supplémentaire qui est la mission. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu, alors que la société religieuse de l'époque essaye d'étouffer Pierre et Jean, qui auraient pu être impressionnés par le grand prêtre, par le Sanhédrin. C'est l'autorité a parlé, l'autorité supérieure a parlé, et ils auraient pu s'incliner. Non, ils le disent, nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Il y a un certain passage de force, il faut bien le reconnaître. On dépasse ce que le carcan social veut imposer quand on témoigne de sa foi. Souvenons-nous la petite Bernadette Soubirou, après avoir dit à ses compagnes au milieu qu'elle avait vu cette belle dame à Cuero et qu'elle sentait un grand désir, elle était brûlée par le désir d'aller à la grotte, quelle a été la réaction sociale de son entourage ? N'y va pas. Ça pourrait être le diable, ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela. N'y retourne pas. La pression a été aussitôt qu'elle n'agisse pas conformément à ce que sa conscience lui dictait. Et finalement, heureusement, elle a dépassé ce climat social qui est un peu de paresse, il faut bien le dire, la paresse intellectuelle, la paresse psychologique, la paresse des œuvres, fait que très souvent, les hommes préfèrent la conformité à ce qui a été fait sans se poser de questions pour, soi-disant, entretenir une paix. Mais la vraie paix n'est pas l'absence de guerre, la vraie paix, c'est celle que donne Jésus-Christ quand on l'a rencontré.
Et je note dans cet article 425, juste après ce que tu citais, cette phrase des Actes des Apôtres, nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu, il est introduite une citation de la première lettre de Saint Jean, qui est de la manière suivante, « Ils invitent les hommes de tous les temps à entrer dans la joie de leur communion avec le Christ. La parole dite est là pour la communion. » Certes, la confrontation nous oblige à prendre des positions. Annoncer la vérité n'est jamais simple parce qu'on s'expose à devoir s'expliquer, devoir dire des choses. Mais la communion est garantie, si j'en crois, au nom de ma foi, évidemment, si j'en crois, cette annonce conduit... est faite pour conduire à la communion plutôt que de diviser.
Oui, la communion nous est assurée par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas à préparer notre défense, comme dit à un moment Jésus, si on vous conduit devant les assemblées, devant les synagogues et autres, vous aurez l'aide du Saint-Esprit qui est communion. Le Saint-Esprit est par essence amour, il est communion. Et à ce moment-là, on témoigne plus facilement, évidemment, dans cette communion, en redisant ce que nous avons contemplé, ce que nos yeux ont vu du Verbe de vie, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. Nous vous l'annonçons, nous en rendons témoignage, et ce témoignage se transmet de cœur à cœur, de personne à personne, à travers les sacrements, à travers la parole de Dieu, à travers toute l'institution de l'Église, sa liturgie en particulier. Et il y a ainsi une transmission de plus en plus forte, et nous n'avons pas à garder au-dedans de nous comme enfermer ce message. La Cour européenne, d'ailleurs, une fois avait tranché à propos d'une dispute qu'il y avait eu entre quelqu'un qui était accusé de faire du prosélytisme et une autre personne. Et la Cour européenne avait dit non, dans les constitutions européennes, le prosélytisme de bon aloi est autorisé. Ce qui est interdit, c'est le prosélytisme de mauvais aloi, c'est-à-dire quand on veut transmettre quelque chose en essayant de le monnayer par des intérêts, en disant « si tu viens chez nous, on va t'offrir tel cadeau ». Ça, c'est un prosélytisme de mauvais aloi. Mais en soi, le prosélytisme qui a perdu malheureusement sa qualité, je dirais, qu'on utilisait encore très couramment du temps de Paul VI, de nos jours, on n'ose plus l'utiliser, parce que le prosélytisme a été un peu caractérisé de suspect dans son fondement. Or, en fait, non, le prosélytisme de bon aloi fait partie des droits de chaque homme, de chaque femme dans nos pays, d'annoncer la vérité tout entière. Je crois que c'est important de le dire, parce que prosélyte, ça veut dire planter nouvellement. Donc on a le désir de faire des nouvelles plantations, comme un bon jardinier qui ne laisserait pas passer le printemps sans planter ses pousses.
Merci, frère Édouard.